Bienvenue à toutes et à tous sur notre antenne. Nous vous proposons ce conte de Noël, le Noël de Nathan.
Il était devenu impossible de circuler à Bethléem. Les rues étaient encombrées de gens et d'animaux, de chevaux, dromadaires, bourricots. On se bousculait autour des échoppes pour acheter quelques légumes ou du pain. Une nourriture d'ailleurs bien insuffisante pour cette foule venue se faire recenser sur ordre de César Auguste. Nathan fuyait la foule. Il montait dans la montagne pour s'isoler. Pour sortir du village, il empruntait toujours la même ruelle, puis prenait un sentier qui montait le long de la synagogue, dont il touchait les murs trois fois, une fois pour Abraham, une fois pour Jacob, une fois pour Moïse. Et quand il avait fait 38 pas après l'angle droit du portique de la synagogue, il s'arrêtait, plongeait son âme quelques secondes dans le silence et recueilli, faisait solennellement un pas à droite pour se mettre sous la protection d'Élie, le prophète qui n'avait pas connu la mort. Nathan était un garçon différent des autres, selon ses camarades. Ils adoraient jouer avec lui, car il savait trouver des jeux nouveaux, inattendus, où il s'agissait toujours d'acquérir des pouvoirs à travers des aventures compliquées et parfois dangereuses. Ainsi, il avait un jour emmené une troupe de garçons de son village, Bethléem, pour retrouver le bâton du prophète. Ce bâton que Moïse avait transformé en un serpent en le jetant sur le sol et qui avait avalé ceux des magiciens de Pharaon en Égypte. Avec ce bout de bois, le prophète avait ouvert les entrailles de la mer Rouge pour que le peuple hébreu, pourchassé par les chars des soldats égyptiens, puisse s'échapper vers la terre promise. Avec lui aussi, lorsque le peuple mourait de soif dans le désert du Sinaï, Moïse avait frappé un rocher trois fois et il en avait jailli de l'eau. Empruntant donc la ruelle, puis le sentier le long de la synagogue, il leur avait fait à tous toucher le mur par trois fois, puis leur avait fait faire le pas à droite après les 38 premiers, ce qui faisait 39. Le 40e pas, leur expliquait-il, ne serait fait que le jour de la venue du Messie. Il leur dit
« Attention, c'est une aventure dangereuse. Il faut se mettre sous la garde d'El Shaddai et de ses envoyés. »
Ils étaient donc partis tout le jour avec Nathan et s'étaient égarés à force de monter et descendre sur les flancs de la montagne à la recherche de la moindre grotte ou cavité où on aurait pu trouver quelque chose. La montagne, dans cette partie de Palestine, est pleine de trous creusés par le vent ou par des hommes qui choisissent d'y vivre protégés dans les entrailles du rocher. Excités par les propos de Nathan qui leur racontait à voix haute les aventures miraculeuses de la sortie d'Égypte et poussés par leur avidité, ils s'étaient beaucoup éloignés des sentiers qu'ils connaissaient pour ne plus savoir finalement où était la route du retour. À la nuit tombante, ce sont des bergers qui les retrouvèrent transis de froid et de peur et les ramenèrent chez eux. Le père de Nathan était le rabbin de la petite synagogue. Il était très instruit des choses sacrées et de l'alliance que Dieu avait scellée depuis Abraham avec le peuple hébreu. Il racontait chaque soir à son fils un détail de la vie d'Isaac, l'enfant impossible annoncé par trois anges, de Jacob qui avait lutté toute une nuit avec une créature mystérieuse qui n'avait pas voulu donner son nom, de Joseph qui savait interpréter les rêves de Pharaon ou d'Élie qui avait fait tomber le feu du ciel sur les magiciens de Madian. Et son père lui répétait très souvent les paroles d'Isaïe, le messager persécuté.
« Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La souveraineté sur ses épaules, on proclame son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Il y aura un royaume étendu et une paix sans fin pour le trône de David et pour sa royauté, qu'il établira et affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. » L'amour jaloux du Seigneur, le Tout-Puissant, fera cela.
Ces paroles le laissaient perplexe, car le trône de David était en ces jours occupé par un imposteur qui s'employait à collaborer avec l'empire idolâtre de César. Ce recensement qui plongeait Bethléem dans la cohue avait été ordonné par l'empereur, et ce filou d'Hérode avait mis beaucoup de ses soldats à la disposition des Romains pour cela. Son père lui disait que ces deux-là, César et Hérode, étaient envoyés par Dieu pour changer le cœur des fidèles. Nathan ne comprenait pas comment des hommes si impies pouvaient changer le cœur de qui que ce soit. Mais surtout, son père l'avait mis en garde contre les Samaritains et leur statut sacré aux pouvoirs étranges qu'ils vénéraient et auxquels ils offraient du sang, et parfois pire, lui disait-il, avec mystère, en le regardant silencieusement, des larmes au bord des yeux. Il lui parlait du Messie, celui qui devait venir, un homme pas comme les autres, qui viendrait non des hommes, mais de Dieu, pour renvoyer les Romains chez eux et faire d'Israël un pays saint et rayonnant sur les autres nations. Le père de Nathan était désolé de tout ce remue-ménage à Bethléem. C'est vrai que la vie à Bethléem n'était pas drôle depuis l'arrivée des Romains. Ils arrivaient tout à coup dans le village avec leurs puissants chevaux, rentraient dans les maisons et en arrachaient des hommes qu'ils emmenaient enchaînés jusqu'à Jérusalem. Chaque fois que cela se produisait, le père de Nathan s'enfermait 2 ou 3 jours dans sa synagogue et jeûnait et priait longuement, pleurant, chantant des incantations jusque tard dans la nuit. Nathan, en collant l'oreille à la porte de la synagogue, l'entendait chuchoter des formules.
Elohim, Dieu d'Israël, Dieu d'Isaac, sauve ton peuple.
Il se souvient que son père, un jour en plein midi, s'était mis au milieu de la place du village, qu'il avait déchiré ses vêtements et le torse exposé au soleil avait sangloté en public.
Elohim, Dieu d'Israël, Dieu d'Isaac, sauve ton peuple. Fais-nous revenir à toi. Fais-nous revenir.
Certains enfants se moquaient du rabbin, mais jamais en sa présence. D'ailleurs, quand on plaisantait sur lui dans les familles, on le faisait à voix basse. Et cela mettait tout le monde mal à l'aise. On l'admirait et on le craignait. Ces hommes que les soldats romains venaient chercher pour les mettre en prison étaient appelés les zélotes. Ils disaient aux hommes du village de ne pas se laisser faire, de n'obéir ni aux Romains ni aux soldats du roi Hérode, qui étaient encore pires que les Romains. Parfois, Nathan admirait ces hommes qui voulaient résister à César, et parfois il en avait peur. Ils avaient toujours des couteaux sur eux, ils criaient souvent au milieu de la foule et menaçaient ceux qui n'étaient pas de leur avis. Finalement, Nathan préférait ces gens qui vivaient à part dans la montagne et que son père allait voir en cachette, les Esséniens. Ils vivaient dans des grottes, chantaient des hymnes magnifiques avec des voix profondes et graves et inspiraient le calme et la confiance. Ils répétaient que le pouvoir des armes et des chevaux n'était rien.
Regardez comme les chars de Pharaon furent balayés par la mer Rouge.
Et ils ajoutaient presque à chaque fois:
le royaume vient, et c'est maintenant.
Cette phrase stupéfiait Nathan. Le royaume vient, et c'est maintenant. Il n'osait même pas la répéter. Quand elle était prononcée devant lui, il avait l'impression de sortir du temps et d'entrer dans une autre dimension. Il ne sentait plus que ses 2 pieds plantés dans le sol et le reste de son corps devenait une longue colonne de nuages entre le ciel et la terre. Si, un jour, il l'avait dite cette phrase, justement, quand, avec ses camarades, ils étaient partis chercher le bâton de Moïse dans le désert. Les autres étaient transis de peur parce que la nuit les avait surpris et qu'on entendait des bruits de bêtes. Ils s'étaient assis par terre les uns contre les autres. Lui, Nathan, leur avait raconté l'histoire de Samson qui avait terrassé un lion et dans la carcasse duquel il avait pu, plus tard, manger du miel. Ils s'écriaient
« Celui qui marche sur sa peur connaîtra la douceur du miel !»
Mais cela ne les rassurait guère. Nathan s'était donc senti soudain fort. Il s'était levé et s'était avancé jusqu'au bord de la falaise qui dominait la vallée qui mène à Jérusalem. Les autres étaient muets de stupeur. Il avait levé les bras vers le ciel et il avait dit, après avoir longuement respiré,
« Le royaume vient et c'est maintenant. »
Il n'avait jamais été aussi bien. D'ailleurs, à cet instant, il avait cru voir un animal étrange en bas, dans la vallée, une sorte de dromadaire à deux bosses. Mais c'est à cet instant qu'une main forte l'avait saisi par l'épaule. C'était Abel, un berger des environs, qui avait retrouvé le groupe et l'avait ramené au village. Abel les avait sermonnés comme il pouvait, car le pauvre parlait avec toutes sortes de borborygmes ponctués de cris d'animaux et on ne comprenait que très vaguement ce qu'il disait en général. D'ailleurs, les gens du village disaient aux enfants de rester à l'écart de ces gardiens de troupeaux de la plaine. On les considérait comme des humains inférieurs qui finalement n'étaient dignes que de vivre parmi les bêtes. Ils étaient la postérité de Cham, disait-on avec effroi. Nathan ne comprit que tardivement le sens de cette malédiction, en entendant un jour à la synagogue le récit de l'Arche de Noé, comment le patriarche et ses trois fils avaient échappé au déluge. Ils avaient cultivé la vigne sur une terre que Dieu leur avait donnée, Noé avait bu du vin de cette vigne et avait été retrouvé ivre et nu sous sa tente par un de ses fils, Cham. Celui-ci avait averti ses deux frères qui prirent un manteau et en marchant à reculons, sans tourner la tête vers le corps de leur père, avait recouvert sa nudité. À son réveil, Noé, apprenant que Cham l'avait vu nu dans son ivresse, avait maudit son fils. Ainsi, Abel appartenait aux enfants des enfants des enfants de ce Cham. Ces bergers, pourtant, Nathan les aimait. Particulièrement Abel, qu'il avait fréquenté dès son enfance, en cachette. Abel lui avait appris à attraper les sauterelles, à recueillir le miel dans la fonte des rochers. Et ces espèces de cris, Nathan avait l'impression de les comprendre au-delà des sons qui sortaient de sa gorge, notamment en observant ses yeux. Les yeux d'Abel étaient comme deux diamants clairs au creux de grosses orbites poilues dans un visage à peau sombre. L'expression de son visage dégageait selon les situations l'enfance ou la peur. L'enfance, quand il était au milieu des agneaux de son troupeau, les caressant ou les mettant à téter sous leur mère, et la peur, quand approchait la grande Pâque au temple de Jérusalem, où des prêtres venaient pour prélever quelques-uns de ces agneaux pour les sacrifices. Quand ces fêtes approchaient, il bégayait encore plus que d'habitude et son caractère s'obscurcissait. Une fois, à la brise du soir, Nathan l'avait vu même pleurer et gémir dans un cri plaintif et pathétique comme celui d'une biche prise au piège. Il n'oublia jamais les larmes d'Abel et elles s'étaient inscrites dans sa mémoire à jamais. À cause de cette aventure où il s'était perdu, Nathan fut puni par son père. Cet homme ne l'avait jamais frappé. Quand ses enfants faisaient quelque chose qui lui déplaisait, il jeûnait subitement, n'absorbant plus aucune nourriture pendant plusieurs jours, puis réapparaissait pour un repas sans que l'on sache bien selon quelles règles. Au cours du repas, après la bénédiction, il citait une parole de l'Écriture, l'Écriture qu'il connaissait par cœur, sans aucun commentaire. Et le repas se continuait en silence, chacun essayant de comprendre, en fonction de la parole entendue, quel événement avait pu occasionner son jeûne. Quand la mère de Nathan ou ses frères s'apercevaient qu'il commençait à jeûner, chacun s'interrogeait, repassant dans son cœur ce qui avait pu perturber la vie de la famille et tâchant d'améliorer son comportement. Quand il pensait avoir trouvé, il attendait alors avec impatience la parole du patriarche pour savoir s'il avait vu juste. Son père commença donc un jeûne. Nathan se douta que c'était là sa punition. Il en fut très peiné car il vénérait son père et rien n'était plus mortifiant que de voir sa place vide pendant plusieurs jours au repas, d'autant aussi que durant ces périodes, il ne disait plus un mot. Il restait silencieux, parfaitement silencieux, et semblait durant ces jours s'entretenir avec un esprit invisible qui prenait le temps de lui souffler la bonne parole à délivrer pour les siens. De plus, Nathan était inquiet parce que l'année précédente, le grand prêtre de l'immense temple de Jérusalem, désigné par le sort, un nommé Zacharie, était entré dans le Saint des Saints où l'on ne pénètre qu'une fois par an pour prononcer la grande intercession et qu'il en était ressorti muet. Il craignait qu'un jour son père aussi ne se taise définitivement, d'autant que ces derniers temps, quand il commentait les rouleaux de la Torah à la synagogue, il avait dit à l'assemblée des fidèles que les prophètes s'étaient tus, que plus personne ne se lèverait et que peut-être Dieu avait choisi de se taire une fois pour toutes. Nathan était très inquiet. Du fait du recensement, cette foule qui déambulait dans les rues de Bethléem l'indisposait encore plus. Et il était triste d'avoir déplu à son père. Les parents de ses camarades avaient interdit à leurs enfants d'approcher Nathan et de partager ses jeux. Isolé des autres, errant seul dans la plaine balayée par le vent chaud, il se demandait ce que le monde pourrait devenir si Dieu se taisait. Il chercha quelques consolations auprès d'Abel. Il se dirigea vers la plaine pour le trouver et tomba sur le patron des bergers qui était en colère. La veille au soir, au moment de rassembler les moutons dans la nuit, il ne les avait plus vus et il avait dû faire seul le travail. Ils étaient arrivés en retard et, disait-il, ils étaient revenus fous. Ils sautaient sur place comme des cabris, racontant des fables. Un démon de la montagne avait dû les punir, lui et les siens. Pour les mortifier, il les avait envoyés dans la montagne retrouver une brebis qui manquait. Nathan fut terrifié à l'idée qu'un démon des montagnes avait pu s'emparer de l'âme d'Abel, l'innocent. Cela faisait trop d'événements. Il lui fallait déployer toutes ses connaissances pour rompre le sort qui s'acharnait sur Abel, la malédiction de Cham. Il lui fallait déployer le plan qu'il avait lentement élaboré dans son esprit, qu'il avait gardé pour une grande occasion. Dieu s'était tu. Il avait gravement déplu à son père qui endurait les médisances du village à cause de son fils. Abel était saisi par les démons, il était temps de conjurer cette malédiction. Ces événements faisaient leur chemin dans sa tête. Il se rendit chez lui et discrètement prit un manteau de son père, puis se dirigea vers la synagogue. Comme il avait l'habitude de le faire, il toucha trois fois le mur du bâtiment, prit le sentier vers la montagne, mais cette fois-ci en marchant à reculons, recouvrant ses pas en traînant sur le sol le manteau du rabbin, son père. Plus d'une fois, il faillit trébucher car il n'était pas aisé de marcher ainsi et il lui fallut plusieurs heures pour atteindre le sommet qui dominait la plaine descendant vers Jérusalem. Après avoir repris son souffle, il resta un long moment dans le silence, puis, avec des gestes cérémonieux et posés, il se déshabilla pour s'allonger nu sur le sol et se couvrit du manteau de son père. Il resta ainsi encore un long moment à l'écoute du silence du soir tombant, puis une longue plainte monta de sa gorge.
Dieu d'Adam, Dieu de Noé, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, prends pitié de ton peuple. Vois comme nous sommes faibles et vulnérables sur cette terre que tu nous as donnée. Vois comme tes dons nous sont devenus inhospitaliers. Vois comme cette nudité nous est pénible. Nous entrons nus dans cette vie et nous en sortons nus. Nous traversons mille périls. Nous connaissons la peur, la maladie, la honte. Nos oppresseurs toisent notre faiblesse et rient de notre religion. Tu nous as envoyé des prophètes nombreux et savants. Pourtant, nous ne sommes pas meilleurs que les autres peuples. Et aujourd'hui, un empire idolâtre occupe cette terre que tu as donnée à nos pères. Seigneur, je comprends que tu ne veuilles plus parler à ce peuple à qui tu as montré beaucoup de prodiges et pour lesquels tu voulais les meilleures choses. Mais vois, quand tu parles, nous ne comprenons pas. Quand tu agis pour nous, nous devenons orgueilleux. Quand tu attends notre confiance, nous nous cachons derrière des feuilles de figuier. Seigneur, Dieu d'Abraham, sais-tu que c'est dur d'être un enfant? Sais-tu que c'est dur d'être un adulte? Et que c'est difficile d'être un vieillard sur cette terre bénie qui pourrait être un jardin où coule le lait et le miel? Seigneur, tu attendais beaucoup de la descendance d'Abraham, mais vois, Nous n'y arrivons pas. Tes chemins sont trop subtils. Tes commandements ne nous procurent pas la joie. Nous les portons comme un joug. Et nous ne savons pas lire les signes que tu nous fais. Pitié, Seigneur, Créateur des mondes. Vois la misère de ton peuple. Couvre notre nudité de ta miséricorde et qu'advienne ton royaume. Et surtout, ne cesse pas de nous parler.
Après qu'il eut prononcé cette longue prière, Nathan se sentit entouré d'une paix profonde qu'il laissa se répandre en lui. Quelques larmes montèrent de ses yeux et coulèrent sur ses tempes. Adam, Noé, Cham, Abraham, Moïse et Élie semblaient être là et avoir entendu sa plainte. Cette plainte, d'ailleurs, elle ne lui semblait n'être la sienne que pour une petite part. C'était plutôt celle d'Abel, qu'il aurait mise en mots s'il avait su parler. Il sentit son corps nu s'enfoncer dans la terre de ses ancêtres. Un souffle tiède caressait son visage et séchait ses larmes. Comme il était bien. Comme la terre était bonne. Comme le ciel était bon. Comme il était bon d'être ainsi étendu nu entre ces deux bontés immenses. Soudain, une grande lumière passa dans un souffle. Elle éclaira les environs comme en plein jour dans un sifflement de chauffard. Nathan se redressa pour mieux voir et frotter ses yeux, embués par les larmes, pour la voir disparaître dans la vallée. Il se rhabilla en hâte et redescendit aussi vite qu'il put de la montagne. Arrivé au village, il questionna les gens.
« Une grande lumière avec un sifflement !»«
Laisse-nous et rentre chez toi !» lui disait-on. Nathan grimpa sur la terrasse de sa maison, mais ne vit rien. À cet instant, il entendit qu'une voix familière l'appelait. Il se pencha et vit Abel qui, avec un grand sourire, en secouant les bras, l'invitait à le rejoindre.
« Qu'est-ce qui t'arrive, Abel ?»
Il descendit. Il était bien comme l'avait dit son patron. Il sautait sur place en jappant des mots inaudibles où Nathan ne put comprendre que le mot « enfant ». Et il le tirait par ses vêtements, lui désignant du doigt une direction. Il voulut suivre Abel dans les ruelles de Bethléem, mais celui-ci semblait glisser sur le sol. À chaque enjambée, Nathan perdait du terrain. Abel allait droit sur la synagogue, ce qui contraria Nathan. S'il ne voulait pas perdre sa trace, il ne pourrait pas se soumettre à la protection d'El Shaddai en faisant son rituel. Pourvu qu'il tourne avant la synagogue et ne sorte pas du village, se disait-il avec angoisse. Mais hélas, Abel obliqua et monta le long de la synagogue. Il s'écria.
« Non, Abel, je t'en prie. Attends, je dois faire mon rituel. »
Mais Abel était déjà loin devant et il n'entendit pas. Nathan toucha rapidement le mur trois fois, commençant à hâte ses 30 pas, lorsque, stupeur, il vit au loin Abel, entouré de personnages menaçants et de bêtes étranges. Abandonnant tout son rituel, il courut pour l'assister. Des hommes étranges cernaient Abel. L'un d'eux était sans doute un fils de Cham, car sa peau était noire comme la nuit. Il y avait aussi un homme très grand avec une longue barbe, et derrière lui, une bête étrange. Nathan se rappela.
« Mais oui, c'est le dromadaire à deux bosses. Ces hommes, venus de loin, étaient en fait fort aimables, mais ne connaissant pas très bien notre langue et notre pays, ils étaient perdus et avaient demandé à Abel où était le fils de David. Le pauvre Abel était bien incapable de répondre à une question comme celle-là. Des fils de David, il n'y en avait jamais eu autant. Il n'y avait même que ceux-là à Bethléem, puisque tous ses descendants étaient là pour se faire recenser. Je tentais de leur expliquer. Heureusement, le troisième possédait notre langue. Il écouta attentivement ce que je lui expliquais. Puis me prit par la manche pour me mener un peu à l'écart de tous, à proximité d'une bête immense avec des oreilles énormes et des yeux malins. Sur son cou se tenait un homme armé d'un petit crochet pointu qui nous surveillait. Je n'étais guère rassuré. Il s'approcha de mon oreille et me chuchota.
« Le Messie. »«
Le Messie. »«
Où est-il ? Pouvez-vous me le dire ?»«
Le Messie à Bethléem ?»
Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. »
Nathan reconnut effectivement un passage que son père lui avait souvent cité avec embarras, car il ne savait comment comprendre ces paroles du prophète. Dans sa jeunesse même, il s'était imaginé qu'il pourrait s'agir de lui. Puis, les années passant, qu'il pourrait s'agir d'un de ses fils. Pour finir, il n'en avait plus jamais parlé. Nathan était dans l'embarras, et ne voulant pas passer pour un imbécile, il répondit
« Mais bien sûr, Bethléem, terre de Juda, un chef, et oui, c'est bien ici ?»
Au moment où il disait ces mots, cherchant une issue, son regard croisa celui d'Abel, qui semblait l'appeler du regard.
« Eh bien, suivant mon serviteur Abel, peux-tu nous conduire ?»
Toute la troupe, entourée d'une foule curieuse, se mit à suivre Abel qui mena joyeusement cette cohorte d'hommes et d'animaux étranges à quelques lieues de là. Nathan était au comble de l'angoisse. Il avait menti en faisant mine de savoir ce qu'il ne savait pas. Il avait interrompu son rituel de sortie du village le long de la synagogue. Il n'avait pas remis le manteau de son père à sa place. Il était accablé. Son rituel sur la montagne et sa prière d'intercession pour les fils d'Adam se retournaient contre lui. Et voyant l'homme à la peau noire comme la nuit, il se dit en lui-même consterné
« Abel et moi, nous sommes tombés sous la malédiction de Cham. »
Il cherchait comment il pourrait se dérober à l'attention de ces personnages importants et de leurs serviteurs, mais il ne put esquiver leur attention. Un homme, sur l'énorme animal aux pas lourds, ne le quittait pas des yeux, lui souriant de toutes ses dents chaque fois qu'il regardait en sa direction, lui faisant des petits signes amicaux ou menaçant, allez savoir, avec une pique de fer. Ils arrivèrent au flanc de la montagne par la partie est. Il y avait là un creux dans le rocher qui avait dû être habité autrefois. On y mettait du foin et quelquefois on y abritait des animaux. Une vieille porte en bois en régulait l'accès. Elle était étroite. Les nobles étrangers parlementèrent quelques instants avec un homme sur le seuil. Ils firent des signes à leurs serviteurs qui amenèrent des coffrets précieux et pénétrèrent dans la grotte en se baissant un peu pour ne pas heurter le linteau de l'accès. Nathan s'introduit à leur suite pour voir quel événement extraordinaire occasionnait tant de mystères. Les nobles étrangers s'inclinèrent devant une femme qui tenait un bébé entre ses bras. Rien d'autre. Un bébé. Abel était juste à ses côtés, jubilant et poussant de longs gloussements de contentement, applaudissant aux cadeaux que les mystérieux étrangers déposaient sur le sol en terre battue. Le regard de Nathan allait de droite à gauche, de haut en bas, cherchant dans cet endroit un détail qui aurait pu lui faire comprendre qui était cet enfant et pourquoi il pouvait mériter tant d'honneur venu de si loin. Rien. Un âne banal et un gros bœuf endormi, du foin et cette femme avec son bébé. Nathan repensa à ses paroles entendues.
Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël.
De qui pouvait-il s'agir? Il se sentait étrangement bien, et il parla avec quelques personnes qui se trouvaient aux abords de la grotte. Ce couple était venu de Nazareth pour le recensement. L'homme était de la maison de David, charpentier, de parenté avec Zacharie, le grand prêtre devenu muet en pénétrant dans le Saint des Saints au temple de Jérusalem. Voici qu'à présent, il avait complètement oublié son angoisse. Nathan en apprit beaucoup plus. Le prêtre, Zacharie, déjà âgé et sans enfant, avait été gracié par Dieu. Sa femme avait enfanté et il n'avait retrouvé la parole qu'après avoir délivré le nom de l'enfant à la circoncision, un nom qu'un ange lui aurait communiqué. Un peu inquiet, mais aussi fasciné, Nathan monta sur une meule de foin pour s'isoler et observer le spectacle. Les étrangers, jubilant, discutant entre eux, émerveillés de voir l'enfant téter sa mère, Abel, qui allait et venait comme dans sa propre maison. Il resta un long moment sur cette meule et s'assoupit même un peu. comme tout était doux dans ce creux de rocher. Les gestes gracieux des étrangers qui regardaient la femme allaitant son enfant, l'attention des visiteurs les uns aux autres, la rumination paisible du gros bœuf. Tous ces gens avaient l'air de se connaître depuis toujours. Nathan était fasciné par la simplicité de cette scène. Il ferma les yeux, respira profondément cet air tiède aux entrailles de la terre. Il était comme ivre. Il chuchota.
Le royaume vient, et c'est maintenant.
Et pour la première fois de sa vie, sans comprendre, Nathan pleura de joie.